Hervé, bonjour.
Bonjour.
Deux tempêtes s'affichent en première page des journaux ce matin.
Un cyclone, un vrai, sur l'île de la Réunion et une bourrasque politique et médiatique, celle qui continue de secouer la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, et d'agiter le Landerneau. L'envoyé spécial du Parisien dans l'océan Indien raconte 7 heures d'enfer face au cyclone Belal. Arbres abattus, rivières en crue, toits arrachés, mais un seul mort. Ça n'a pas été le cataclysme redouté, relativisait le préfet hier soir. La Réunion secouée mais soulagée, titre Libération. Le même journal consacre sa une à Amélie Oudéa-Castéra, donc avec un titre moins clément que la météo. La ministre serait embourbée dans ses mensonges, dit Libération, sur la scolarité de ses enfants, au point de fragiliser le gouvernement.
Les propos de la nouvelle ministre de l'Éducation continuent de lui être reprochés tous azimuts.
Il en faut peu pour faire d'une phrase un scandale et susciter les appels à la démission. On le sait, les Échos observent que la polémique remobilise les syndicats et l'opinion qu'elle fait une mauvaise pub à l'école privée. Libération accuse Amélie Oudéa-Castéra d'avoir menti en justifiant l'inscription de ses enfants dans une école privée par l'absentéisme des profs dans le public, et Mediapart, dans un portrait hargneux, dénonce la ministre et son mari, ex-président de la Société Générale, comme, je cite, « l'incarnation de la jonction des intérêts économiques et politiques des classes dominantes ». Quant à l'absentéisme des profs, le vrai sujet, on trouve sur le site du Point ces éléments de réponse. Selon la Cour des comptes, 45% des enseignants du secteur public ont été absents pour raison de santé durant l'année scolaire 2018-2019. Et d'après le syndicat SNES-FSU, il manquait en moyenne à la rentrée de 2023 au moins un enseignant dans 48% des collèges et des lycées. N'est-ce pas ce qu'on appelle une vérité qui fâche ?
Mais non, il n'y a pas d'absentéisme à l'éducation nationale, ça n'existe pas, Hervé. Dans Libération, d'autres déclarations mises à mal par une enquête, elles concernent les liens entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et un homme d'affaires issu de l'extrême droite radicale.
Frédéric Chatillon, c'est son nom, fut une figure majeure du GUD, groupuscule ultra-identitaire violent. Il s'est reconverti dans les affaires et a tenu les manettes des campagnes du RN quand c'était encore le FN, juste après l'arrivée à sa tête de Marine Le Pen. Depuis, Frédéric Chatillon a été condamné pour escroquerie et ses accointances avec des figures de l'antisémitisme français ont poussé les dirigeants du RN à prendre leur distance avec lui. Sauf que Libération révèle, échange de mails à l'appui, que Frédéric Chatillon supervisait encore la logistique des campagnes du Rassemblement National au moins jusqu'en 2021. Le recours à ce prestataire sulfureux était-il conseillé ou imposé pour les candidats du RN ? Demande Libération. Un cadre local du parti répond « conseiller est un joli mot ». On verra si ces révélations font autant polémique, puisque c'est le mot, que la scolarité des enfants d'Amélie Oudéa-Castéra.
Ça m'étonnerait. À la une des Échos, l'Allemagne en plein doute. L'économie allemande n'est décidément plus un modèle.
Le pays a déclaré hier un produit intérieur brut en recul de 0,3%, ce qui fait de lui le seul pays du G7 et des grandes nations de l'Union européenne à reculer en 2023. L'Allemagne, explique les Échos, a pâti du ralentissement de deux moteurs essentiels, les exportations et la demande intérieure, notamment sous l'effet de la crise de l'énergie. La Croix consacre un long reportage aux difficultés du groupe chimique BASF, miroir de la crise allemande, écrit le journal. Dans ce secteur, la production a chuté de 11% en 2023, après une baisse de 10% en 2022. Les Échos notent cependant que, à contrario de ce qui se passe en France, cette situation n'empêche pas l'État allemand de serrer les boulons budgétaires avec un déficit d'à peine 2% en 2023. Pour info, c'est 4,9% en France.
Mais il y a crise et crise de modèle. Un modèle qui continue à en imposer, c'est la monarchie britannique. Le Parisien raconte la dernière journée de la reine Elisabeth II.
Le secret entretient le mythe de ce 8 septembre 2022, quand la reine rendit son dernier souffle. On ne saura jamais tout, mais le Parisien a lu en avant-première le livre de Robert Hardman, grand expert de la couronne britannique, qui reconstitue heure par heure l'ultime journée. On y apprend qu'à l'instant fatidique, Charles cueillait des champignons, que William et Harry sont arrivés en retard, que Meghan n'était pas la bienvenue au chevet de la reine et qu'Elisabeth II a laissé une lettre cachetée à l'intention de son fils, l'actuel roi Charles III. Le livre sort au moment où la production de la série The Crown, qui a tant déplu à la famille royale, met aux enchères les costumes et les accessoires de la série. Vous lirez dans le Figaro le détail des objets mis en vente et leur prix. Certains sont assez élevés. Il y aura peut-être autant d'amateurs que pour voir les joyaux de la couronne à la Tour de Londres. Mieux vaut que la reine soit morte sans l'avoir su.
Est-ce qu'il y a un objet qui vous tente dans la série, qui vous ferait plaisir ?
Non, car je ne porte pas les robes de la princesse Diana, même quand elles sont fausses.
Moi, c'est les voitures, mais elles ne sont pas en vente, malheureusement. Hervé, on vous retrouve demain pour la revue de presse. À suivre, Christophe Barbier et Lucie Robquin, nos esprits libres du mardi.